Bonjour à toutes et à tous, curieuses et curieux du mardi 21 février 2023. Vous êtes sur Fréquence 7 et vous écoutez l'onde curieuse. Il est midi ou il est 17h. On est avec Sylvain. Bonjour Sylvain à la réalisation.
Salut.
Quentin. Bonjour Quentin.
Bonjour Sophie.
Alors aujourd'hui, quand on passe la main dans l'air, on sentirait presque la tension qui règne sur le globe. Ces jours-ci, le monde ressemble à un ballon de baudruche qui se promène dans une roseraie.
Et oui, c'est une belle image pour une tension bien réelle. Pendant le sommet de Munich sur la sécurité qui s'est tenu ce week-end, les pays de l'OTAN se sont accordés sur les livraisons de munitions à l'Ukraine, malgré les difficultés rencontrées pour accroître la production européenne d'obus.
Alors la Chine, elle, semble plutôt penchée pour un processus de paix qui inclurait la Russie.
Oui, et puis au même moment, la Corée du Nord envoie 3 missiles balistiques comme un test ou une provocation pour Washington.
Israël se rapproche de l'Arabie Saoudite.
L'Iran se rapproche de la Russie.
Et moi de mon micro. L'ambiance militaire mondiale est en pleine effervescence et la course à l'armement est le sport à la mode. Ouais, un sport auquel la France participe largement puisque en janvier, Emmanuel Macron annonçait un plan d'investissement militaire de, écoutez bien, 413 milliards d'euros sur 7 ans. Je répète, 413 milliards d'euros sur 7 ans.
Et oui, on cherche toujours comment renflouer les caisses de l'hôpital et les caisses de retraite, mais nos entreprises d'armement françaises, dont Thales et Safran, ont encore signé en 2021 près de 7 millions d'euros de vente de matériel à la Russie.
Ouais, alors on parle de tout ça dans un moment avec Tony Fortin, spécialiste du trafic d'armes à la française au sein de l'Observatoire des armements. Dans les infos, tu mentionnais hier l'histoire de l'IRSN que le gouvernement compte démanteler dans la loi sur l'accélération du nucléaire.
Oui, les salariés de l'IRSN, donc l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, sont en grève depuis hier à Paris, à Cadarache et sur tous les sites, les 9 sites de France. Et c'est important d'en parler parce que l'IRSN, jusqu'à aujourd'hui, c'est l'Institut de recherche scientifique indépendant. Il est constitué d'experts et de chercheurs qui rendent compte à l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, qui elle est plutôt le gendarme nucléaire, c'est-à-dire par définition corruptible et avec une obligation de résultat. Or, la compétence de l'IRSN, dans l'annonce faite par Emmanuel Macron le 8 février, les compétences de l'IRSN seraient réparties entre l'ASN et le CEA, donc le Centre de l'énergie atomique, qui est un centre de recherche brute. Et ça, le but recherché, c'est donc de fluidifier les décisions.
Oui, mais ça engendrerait aussi une perte d'indépendance.
Bah oui, c'est ce que dénoncent les professionnels de l'IRSN en grève, une perte d'indépendance, une réduction du champ d'expertise, enfin bref, tout pour nous rassurer, sachant que notre parc nucléaire est quand même dans un piteux état et que la loi de renouvellement, que les projets de renouvellement de centrales patinent.
Eh bien, tout pour nous rassurer, merci beaucoup. Comment on fait ? On passe à l'agenda culturel pour essayer de nous sortir de là ? Eh bien oui, passons à l'agenda culturel. Ce soir, comme chaque dernier mercredi du mois, scène ouverte au Café Français à Aubenas dès 20h. Vous pouvez vous exprimer de toutes les manières. Théâtre, poésie, impro, musique. L'inscription se fait sur place avec MC Gabi, l'animatrice du jour.
Et si vous êtes sur Aubenas, toujours à Aubenas, demain soir, au Tintamarre, le local de création artistique et militante, Tintamarre accueille un concert du groupe breton L'Ivresse Bleue avec leurs chansons et leur amour. Ça sera suivi d'une jam session. L'ouverture se fait à 19h. Le concert est à 20h. Vous trouverez nourriture et boissons sur place. C'est une soirée à prix libre.
Et jeudi, au cinéma Le Navire, il y a une conférence spectacle sur l'histoire du football féminin, interprétée et animée par la comédienne, footballeuse et historienne de l'art, Hortense Berlotte. C'est dans le cadre, alors on en a déjà parlé ici, dans le cadre d'un temps fort autour de footballeuses qui est organisé par l'association Forma, association de danse, enfin autour de la danse et de la chorégraphie, et de l'artiste et chorégraphe Mickaël Felippo.
Donc ça se passe au cinéma Le Navire, demain ça commence à 19h et l'entrée coûte 8 euros à plein tarif. C'est tout pour ce début de semaine.
Merci. Et on parlera de plein d'autres actus, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... L'agenda culturel est bien dense, surtout en fin de semaine et ce week-end.
On continue du coup en musique.
On continue en musique.
I'll shine over the night, and then I fly so high, and I know your wings are just like mine. This is my soul, I will let it flow, cause today I'm someone that I know. I don't care if it's last day of summer, how bloom in winter, I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am, I'm a revolution. Ora che so guardare al di là del male, riesco a vedere l'invisibile e sono io, quella spirale ascendente, se sono io, mistico cuore, mistica mente e tu ti specchi davanti a me, siamo diversi ma uniti e io mi cerco dentro di te, quando mi trovo sento i brividi, brividi. I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am, I'm a revolution, I won't let myself down, so I win forever, and today I'm wherever I am, you my revolution.
Ascolto bene il suo cuore questionandomi. Do gasti anche in tutte le terre a suo mondo in questa vita. Ci mangi luci, cuore e anima, donuto tutta forza mia. Die, dopo die, sono non di essi vencitori. C'ho di tempo su, du sciugumento fuori. Prima o poi devo pure appoggiare. E pazienza per tutto su che affrontai. Dopo si è il superano, sono sicura d'arrivai. In questa vita, con questo sove, ci vuoi si contai. Mi gruva tu, ma non mi fermo mai.
I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, I'm a revolution. I won't let myself down, so I win forever. And today I'm wherever I am, you my revolution.
Human revolution. Human Revolution, la révolution humaine, c'est un morceau de Moses Concas. Alors Moses Concas, c'est lui qui est à l'harmonica et au beatbox sur le morceau. C'est un morceau qui date déjà de 2017. Moses Concas, c'est un artiste sarde. Il est né, il a grandi en Sardaigne, il a fait ses premières scènes ouvertes en Sardaigne. Et puis il est parti voyager sur les routes d'Europe, faire de la musique dans la rue, découvrir et explorer son talent. Il a rencontré un succès assez grand et il est installé à Londres désormais. Sur ce morceau, il joue du coup en partenariat avec deux rappeuses et un rasta blanc.
On passe au sujet du jour. Alors Quentin, c'est toi qui as voulu le diffuser à ton retour du Salon Primevert de ce week-end à Lyon sur l'écologie et les alternatives. C'est une interview de Tony Fortin. Tu nous en dis un mot ?
Et oui, alors Tony Fortin, du coup, il est expert en... Enfin, il est spécialisé sur les trafics d'armes et les transferts d'armement, en fait, entre pays. Il étudie, il se penche tout particulièrement sur le cas de la France avec l'Observatoire des armements. C'était une entrevue qui a été menée par une jeune journaliste indépendante qui va peut-être participer de temps en temps... bénévolement à notre émission de Longue Curieuse. Elle s'appelle Nora L'Avenir, elle est allée trouver Tony Fortin sur le stand de l'Observatoire des armements et il est venu nous parler un peu de ses recherches.
On l'écoute.
Alors bonjour, c'est Nora L'Avenir pour Fréquence 7 dans le cadre de Aura FM. Nous accueillons aujourd'hui donc l'association L'Observatoire des armements et c'est son chargé d'études Tony Fortin qui va nous en parler. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre association ?
Alors, l'Observatoire des armements, c'est un centre de recherche et de documentation basé à Lyon qui est focalisé sur les transferts d'armement et les armes nucléaires, qui a été fondé par des objecteurs de conscience dans les années 70 qui ne voulaient pas faire leur service militaire, servir, effectivement, aller à partir à la guerre et qui du coup, se sont dit ça suffit pas d'être opposé à la guerre, d'être pour la paix, de participer à des manifestations, il faut aussi d'une certaine façon documenter ce secteur qui est très peu connu. Il faut aussi fournir des rapports qui permettent justement à la société civile de reposer ses combats sur une analyse documentée qui fait le poids par rapport au pouvoir public. Et donc on est focalisé sur deux thématiques principales. D'un côté, l'élimination des armes nucléaires avec tout le combat pour que la France rallie le traité d'interdiction des armes nucléaires. On a mené aussi tout un combat de reconnaissance des victimes des essais nucléaires français en Algérie et Polynésie. Et enfin, l'autre volet, c'est les transferts d'armement, documenter les ventes d'armes à tel type de régime, avec notamment la campagne menée avec d'autres associations sur l'utilisation des armes françaises au Yémen ces dernières années.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi cet engagement pour la démilitarisation ?
Il faut savoir que le militaire prend une très grande place dans la société française aujourd'hui. La France est quand même le troisième pays exportateur d'armes au monde derrière les États-Unis et la Russie. Et les différents gouvernements français, a fortiori et encore plus depuis le général de Gaulle qui a mis en place l'armement atomique, qui concentre les pouvoirs entre ses mains, et qui est le chef des armées, Et ça n'a pas beaucoup évolué et donc la France encore plus que les autres pays de l'Union Européenne mise sur le militaire pour entretenir des relations avec des régimes dans l'espoir de gagner par la suite des contrats économiques et même si on prend une société comme Total, Total on s'aperçoit que c'est une société qui s'installe dans des zones où il y a des guerres, où il y a des crises avec l'aval du gouvernement français. Donc on mise beaucoup sur les exportations d'armes comme un vecteur pour justement pousser nos intérêts dans telle région en crise, profiter des crises. Mais aussi, évidemment, les armements, s'ils sont produits, c'est au service de notre propre armée. Et notre propre armée est très souvent en guerre, elle aussi, de façon continue depuis 40, 50 ans.
D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondriez aux personnes qui, dans la situation actuelle avec le conflit russo-ukrainien, ont peur de cette situation et ont l'envie, le besoin d'avoir quand même un militaire qui est quand même présent, des armements qui pourraient nous protéger si ce conflit s'étale sur l'Europe ?
Il faut savoir que dans le cadre du conflit ukrainien, cette guerre, d'une part, a été préparée, évidemment, du côté russe, hein, par des ventes d'armes, hein, d'une part. Et parmi les pays qui pouvaient vendre des armes à la Russie, à un moment donné, il y a eu la France. Alors, certes, ces transferts d'armement se sont interrompus à l'arrivée du pouvoir d'Emmanuel Macron, mais pendant le mandat de Nicolas Sarkozy, on s'est rapproché de la Russie, on a fait des transferts de technologie, des sociétés comme Safran se sont rapprochées de l'État russe. Donc, d'une certaine façon, nous avons aussi notre petite responsabilité par rapport aussi à cette guerre et à ceux qui diraient effectivement qu'il est important aujourd'hui d'armer les Ukrainiens. Il y a différentes choses à poser pour contextualiser un peu le débat. D'une part, quand la guerre arrive, c'est généralement trop tard. Il n'y a pas de bonne solution. Et nous, on s'intéresse davantage effectivement à la préparation des guerres. Parce que justement, ces guerres, comme je dis, se préparent et on n'a pas été là au moment où cette guerre s'est préparée avec cette montée des tensions aux frontières, effectivement, de l'Europe. On a plutôt contribué à cette montée des tensions plutôt qu'on l'a affaibli. Et d'autre part, les armes qu'on livre aux Ukrainiens, eh ben, c'est pas forcément, elles vont pas s'éteindre, disparaître quand le conflit va se terminer. Hein, s'il se termine d'ailleurs, parce qu'on est parti pour une guerre particulièrement longue. Ces armes peuvent se retrouver sur d'autres théâtres d'opération. Par exemple, l'armement qu'on a livré à la Bosnie dans les années 90 a alimenté par la suite en fait, les guerres civiles en Afrique dans les années 90-2000. Voilà, donc on voit qu'il y a un effet effectivement très, très documenté et qu'il est temps d'en finir évidemment avec cette tradition qui est effectivement d'alimenter en fait de passer par l'envoi d'armement pour justement maintenir nos intérêts au niveau international. C'est cette logique de guerre qu'il faut rompre qui nous conduit sans cesse à la réédition de nouveaux conflits, à privilégier les logiques de puissance, de rapport de force sur la diplomatie, la négociation, la résolution des injustices.
Ouais, c'est vraiment la question de la réutilisation des armes, hein, aussi, qu'il faut souligner. C'est-à-dire que quand un État arme un État, on se positionne en réalité pas pour ou contre un État. On se positionne pour la perpétuation de cette logique guerrière. Et on arme peut-être nos adversaires de demain. Alors c'est ce qui s'est produit une nouvelle fois ici, hein, puisque Tony Fortin précise que la France a contribué à renforcer l'armement russe ces derniers temps. Et ce, malgré l'embargo décidé par l'Union européenne en 2014, Quentin.
Et oui, et malgré aussi le traité sur le commerce des armes qui a été signé en 2014 aussi aux Nations Unies et qui avait été instigé par des ONG et notamment la France. Alors moi, je suis allé chercher un peu des infos à ce sujet auprès de Disclose, le média d'enquête indépendant, qui s'était procuré en mars dernier des documents sur les ventes d'armes françaises à la Russie depuis 2014, et c'est assez impressionnant. En 2014, je rappelle, l'armée russe envahit la Crimée, l'Union européenne décide d'un embargo sur les ventes d'armes, au même moment aux Nations unies on signe le TCA du coup, mais le gouvernement s'est appuyé sur le motif fallacieux que des contrats de vente d'armes avaient été signés auparavant et qui doivent être menés à terme sans problème. Le résultat, c'est qu'entre 2015 et 2020, les journalistes de Disclose ont recensé 152 millions d'euros de matériel militaire qui a été vendu à Moscou.
Ouais.
Ouais, ça marque à chaque fois. On y pense régulièrement et puis après on n'y pense plus et ça nous permet de mieux vivre. Alors ce matériel militaire, c'est pas directement des chars d'assaut, des missiles, des ogives nucléaires. C'est beaucoup de matériel optique et balistique, notamment des caméras infrarouges pour chars d'assaut qui permettent de repérer des cibles de nuit jusqu'à 10 km de distance. La pub de Thales d'ailleurs à propos de ces caméras qui s'appelle Catherine dit...
Pardon. C'est pour ouvrir le feu en premier.
Ouais, c'est ça, c'est une belle com, c'est voilà, ouvrir le feu en premier, donc c'est un peu ce que ça... Je comprends que Moscou ait décidé du coup d'attaquer les premiers. Thalès et Safran ont aussi exporté des équipements pour moderniser l'armée de l'air russe, donc des systèmes de navigation Takan, des viseurs Hub, des casques à infrarouges pour les pilotes qui permettent une navigation indépendante des systèmes de satellites occidentaux. Donc les entreprises françaises, Thalès, Safran notamment, donc Safran qui est en partie détenu par l'État, ont bénéficié des gouvernements successifs de Sarkozy, puis de François Hollande, puis d'Emmanuel Macron, malgré les bombardements massifs des Russes en Syrie en 2016, on ne s'est pas arrêté de livrer du matériel. C'est la preuve que notre pays a ouvertement favorisé le déclenchement de la guerre en Ukraine.
En tout cas, il l'a permis, ouais. Merci pour ces petites précisions, Quentin. On continue avec une autre question de Nora L'Avenir pour Tony Fortin.
Et quelles sont vos idées, vous, dans votre association, pour arriver à inverser un peu cette situation qui mène au conflit dans vos actions
Il faut d'abord une mobilisation des citoyens. Il faut se sentir concerné par ce sujet. Pourquoi ? Parce que d'une part, il y a un lien très très clair entre les armes utilisées par les policiers et les armes de guerre, de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la guerre a changé de nature, elle se déroule de moins en moins entre États, même s'il y a le gros conflit entre l'Ukraine et la Russie, certes, même s'il y a eu la guerre au Yémen. Il y a beaucoup de conflits qui sont à l'intérieur des États, notamment avec des régimes en guerre contre leur propre population. Ça a été le cas des printemps arabes. Et aussitôt après le printemps arabe, les pays du Moyen-Orient ont demandé, notamment à des pays comme la France, de fabriquer du matériel militaire aux fins des opérations de maintien de l'ordre. Et donc la France a développé toute une série de matériels destinés effectivement au contrôle, à la répression des populations, qui ont été notamment vendus à l'Égypte au début des années 2010 et qui a alimenté la répression. Il y a 60 000 opposants qui ont été enfermés en Égypte à partir de 2013. Et donc ces technologies, d'ailleurs, peuvent être produites localement. On a fait un dernier rapport, La guerre se fabrique près de chez nous, qui montre bien que ces sociétés d'armement, il y en a des grandes, des grosses, mais elles ont des usines un peu dans toutes les régions, dans plusieurs régions de France. Et on a en région Rhône-Alpes tout un tissu d'entreprises qui sont mêlées aux guerres, aux conflits actuels. Et généralement, elles ont aussi un volet civil, ces entreprises. Par exemple, on a l'entreprise Metravib qui est basée à Limonest, en région lyonnaise, qui fait autant des capteurs qui réduisent les vibrations de votre sèche-linge que des systèmes de détection des tirs qui équipent des blindés turcs engagés contre les Kurdes. Voyez. Alors, l'autre exemple, c'est Korpguard. Korpguard est basé là encore en région lyonnaise, c'est une société militaire privée qui est épinglée dans notre rapport pour avoir formé les soldats ivoiriens qui par la suite ont été responsables d'un massacre de population au moment d'une élection présidentielle. Et cette société-là fournit en fait une aide aux chefs d'entreprise en cas de conflit social. Voilà, quand un chef d'entreprise est en quelque sorte gardé dans une salle ou séquestré par les salariés pour qu'ils puissent deux fois s'expliquer par rapport à des licenciements, par exemple, cette société va intervenir. Voilà, et peut intervenir aussi pour la surveillance des congés maladie par les salariés. C'est indiqué textuellement sur le site. Et le fondateur de cette société, qui s'appelle David Ornu, se prononce en faveur d'un continuum sécurité-défense. En gros, il faut que les techniques militaires, les outils militaires servent aussi à la sécurité, quoi. Voilà, on a aussi les entreprises Nobel Sport basée dans la Drôme, qui a notamment qui a été épinglée par les groupes d'experts des Nations Unies pour avoir fourni des grenades lacrymogènes qui ont été utilisées contre les opposants en Côte d'Ivoire et qui en même temps ont fabriqué les grenades qui ont été utilisées par le gendarme français qui a tué Rémi Fraisse lors des manifestations sur le barrage de Siemens. Donc il faut vraiment se mobiliser localement, et c'est l'esprit de ce dossier. Il y a des collectifs qui sont montés suite à ce dossier « Les guerres se fabriquent près de chez nous » pour justement, on peut le rejoindre, ça s'appelle le CRAM. pour faire des actions de tractage, rencontrer les syndicalistes, etc. C'est par la mobilisation de terrain qu'on va pouvoir aussi changer les choses.
Ouais, c'est vraiment glaçant, hein. Presque. C'est presque caricatural. Enfin, on se demande si on est dans une dystopie en écoutant notamment les propos rapportés par Tony Fortin, les propos de David Hornu, qui est directeur de CorpGuard, hein, donc une entreprise bien de chez nous, d'Auvergne-Rhône-Alpes, et qui soulève, qui est en faveur de ce continuum sécurité-défense. Alors, outre l'effet boomerang, d'armer la main de nos potentiels ennemis ou adversaires futurs, le danger, c'est aussi de militariser le maintien de l'ordre chez nous.
Et oui, parce que ce fameux continuum de sécurité-défense, c'est aussi dans la bouche de tous nos politiques, hein, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême droite. On a l'impression un peu que c'est la tendance inévitable depuis plus de 30 ans. Plus de menaces identifiées, donc plus de sécurité, donc plus de moyens de défense. Et au risque de militariser le maintien de l'ordre, c'est un danger, puisque la France a une fâcheuse tendance à tester du matériel dans des pays où le gouvernement fait face à la population, et ce, encore une fois, au mépris des accords internationaux. Entre 2012 et 2014, comme le mentionnait Tony Fortin, on a vendu à l'Égypte plus de 200 VAB, les véhicules d'avant blindés, là, qui sont fabriqués par Renault Trucks. Donc ces blindés légers sont mis en cause dans la mort d'un millier de manifestants au Caire le 14 août 2013, donc en une seule journée, puisque les soldats et policiers égyptiens ont commencé à tirer à balles réelles sur la foule depuis ces blindés, donc qui les protégeaient, eux, des cailloux. Donc toutes ces ventes ne cessent jamais, le matériel est utilisé à l'étranger, on observe un peu les résultats et les effets, et puis après on les utilise un peu chez nous. Puisque par exemple en 2018, à l'expulsion de Notre-Dame-des-Landes, les gendarmes avaient positionné au moins deux de ces blindés qui étaient équipés d'une lame à l'avant, un peu comme un chasse-neige, pour détruire les barricades enflammées. Et en 2020, donc, nouvelle escalade un peu dans nos tests à l'étranger, Dassault a vendu 30 Rafales à l'Égypte.
Ah oui, Dassault, le fleuron de l'industrie française. Je noterai juste, en France, 50% des recherches en électronique sont financées par le militaire et non pas par le civil. Donc c'est vraiment aussi, enfin, ce n'est que ça, hein, ce n'est que un choix de société, mais le gouvernement en tout cas décide d'allouer 50% des ressources pour la recherche militaire, ce qui n'est pas par exemple le cas en Allemagne, hein, où il y a effectivement de la recherche en électronique, mais en électronique civile qui développe énormément d'autres projets. Nous, on décide d'y mettre 50% dans le militaire.
Oui, on a un rang de grande nation à préserver dans le concert international des fusils.
Alors, toutes ces infos sont répertoriées par des médias indépendants, encouragent l'opinion publique à se positionner, et avec ces charges contre elle, aussi bien Dassault que Thalès pourraient être inculpés de complicité de crimes de guerre.
Ouais, de complicité de crimes de guerre, et c'est quelque chose que rappelle Tony dans toute l'entrevue, donc je le mets un peu en exergue là, c'est que c'est vraiment devenu primordial que la société civile se mobilise autour de ces thématiques, parce que c'est trop souvent, il y a une omerta énorme qui règne de la part du gouvernement, à chaque fois que ça soit Amnesty International ou des médias qui essayent d'obtenir les chiffres réels des transferts d'armement depuis la France. Le flou est toujours entretenu, il y a des absences de réponses. Thalès, typiquement, c'est une boîte à laquelle ça sert à rien d'envoyer une requête puisqu'il ne livre à peu près aucun chiffre. Donc voilà, c'est important que l'opinion publique, comme on dit, prenne ouvertement position contre la course à l'armement.
Tout l'intérêt de cette structure. On continue.
Et donc vous en parliez par rapport à la mobilisation, quelles sont vos actions en général de la part de votre association pour lutter contre la militarisation ?
Alors nous, on est plutôt un organisme de recherche, donc on va mener des études et du plaidoyer. On va aussi participer à des campagnes Alors campagne pour l'élimination des armes nucléaires, voilà, c'est-à-dire voilà, faire pression, des pétitions, etc. Mais on sert davantage de support effectivement à des gens qui sont sur le terrain, leur fournissant l'information, leur fournissant les outils. Et pareil pour effectivement les collectifs militants qui peuvent tracter, qui peuvent faire des affiches sur ces sociétés d'armement, qui peuvent rencontrer. On rencontre aussi les syndicalistes dans les boîtes d'armement pour essayer de voir comment ils peuvent aussi questionner le sens de leur production, etc. Donc on essaie d'agir sur les différents leviers, tant le pouvoir politique en négociant avec les députés qu'en favorisant les actions de terrain par des militants. Voilà.
Et comment vous expliquez qu'on en sache si peu sur l'armement et notamment en fait sur à quel point les régions sont concernées, parce que c'est ce qu'on voit dans votre rapport, qu'il y a plein d'entreprises du coup dans les régions qui produisent aussi, payées par nos impôts, qui produisent des armements qui sont utilisés pour plein de conflits différents, après revendus pour d'autres conflits où la France n'est pas forcément concernée. Comment vous expliquez le peu d'informations qui est dessus ?
Alors, il y a deux choses. D'une part, il y a une centralisation de la prise de décision, puisque la décision d'exporter d'une arme, ça relève du président de la République, des services du Premier ministre. Donc, c'est concentré entre les mains du pouvoir et le pouvoir ne veut pas partager ces informations. Il garde tout pour lui. C'est pour ça qu'on ne sait rien. C'est un enjeu politique. Contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni, où il y a eu en fait une transparence beaucoup plus grande sur quelle arme on vend à quel régime, autant en France, on n'a pas progressé là-dessus. Pourquoi ? Là encore, parce que la mobilisation citoyenne est insuffisante et aussi parce que il y a des raisons moins avouables qui sont en fait une forme de consensus gauche-droite sur l'idée en fait que si on rogne notre outil militaire, on va perdre une partie de notre rang dans le monde. On va perdre une partie de notre privilège, de notre mode de vie, très consommateur en ressources. Et ce qu'on souhaite vraiment dans la population générale, réduire notre mode de vie, accepter ça. Et donc diminuer en fait cet outil militaire, pas forcément. Du coup, on laisse ces questions sous cloche et on va pas forcément interroger la petite entreprise qui est à côté de chez nous. Et pourtant, on sait bien que à force de favoriser les déstabilisations multiples du globe et les guerres, ça se retourne contre nous avec aujourd'hui cette guerre en Ukraine aux frontières de l'Europe. Voilà. Donc on a tout intérêt. Et puis surtout des armements qui sont fabriqués par des sociétés qui après peuvent être utilisés dans les manifestations. Voilà. Des technologies de surveillance, d'interception des communications, des grenades qui sont toujours plus mutilantes pour ceux qui manifestent sur le terrain. Et puis des technologies qui permettent de vous espionner et peuvent repérer des comportements déviants, par exemple. Voilà, ça c'est des technologies qu'on a expérimentées en Égypte et qui forcément sont en train d'être mises en place actuellement en France.
En Chine notamment, c'est des technologies qui sont utilisées, mais en France, enfin, on prend l'exemple chinois, mais on n'imagine pas réellement, je pense, que ça puisse venir en France et que peut-être que c'est déjà le cas.
C'est déjà un peu le cas, ne serait-ce que dans les villes, à travers la notion de ville intelligente. À partir du moment où vous mettez énormément d'objets connectés dans les villes, des feux de circulation connectés, une vidéosurveillance connectée, etc., ça veut dire qu'en gros, on vous filme. On mémorise des mouvements de rue, c'est pas individualisé évidemment, mais ça permet de savoir si par exemple y a un attroupement dans un quartier et donc si possible de prévenir en fait cet attroupement là, d'éviter en fait qu'il y ait des trop de manifestations contre le pouvoir. Donc ça c'est un effet effectivement global et puis on cherche à mettre en place aussi au moment du débat sur les JO dans une loi qui est effectivement en préparation. La reconnaissance faciale, c'est-à-dire la reconnaissance des individus dans une foule. Et là, pour le coup, ce serait une reconnaissance individuelle. On saura qui vous êtes. Et c'est particulièrement dangereux. On voit que on risque d'atteindre le point de non-retour. Donc, se désintéresser des questions militaires, c'est pas forcément une bonne stratégie. Même si on est un peu égoïste, on s'intéresse uniquement à ce qui se passe sur le territoire national. Voilà.
D'accord. Et comment on peut vous rejoindre pour pouvoir lutter avec vous contre cette militarisation ?
Alors, on peut, pour ceux qui souhaitent mener des actions diverses et variées, bah, vous pouvez envoyer un mail à relais@opsarm.info. On est basé aussi Montée de Choulan. Vous pouvez nous appeler et prendre rendez-vous si vous souhaitez agir. Et on a aussi notre site internet avec tous les contacts, opsarm.org, avec tous nos dossiers, nos rapports, voilà.
Ben, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant.
Oui, fin de l'interview de Noir à l'avenir avec Tony Fortin de l'Observatoire des armements, qui a été récupéré donc, pendant le salon primevère de ce week-end à Lyon. Effectivement, très 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 intéressant. Toutes ces questions montrent, enfin, toutes ces questions ne sont pas si lointaines que ça. Hein. Elles infiltrent notre quotidien. C'est bien ce que Tony Fortin souligne, et notamment quand il parle justement de ce dernier avatar qu'est la loi pour les JO 2024.
Ouais, on en avait parlé il y a quelques semaines dans l'Onde Curieuse quand ça est rentré, quand ça a été ratifié par le Sénat, enfin quand ça a été validé par le Sénat avant.
31 janvier.
Ouais, c'est ça. Du coup, loi de sécurité, du coup, ça s'infiltre dans notre quotidien, c'est le mot, puisque du coup, parmi les termes de cette loi, on prévoit une surveillance généralisée dans les transports et aux abords des stades. Et c'est une surveillance qui se fait non seulement par caméra, mais en plus, c'est ce qu'on appelle de la surveillance augmentée, c'est-à-dire que les caméras sont assistées par une intelligence artificielle et des algorithmes qui permettent de détecter des comportements suspects.
Et tout le problème, en fait, c'est le temps, l'encadrement de cette loi, c'est-à-dire que jusqu'à quand ?
Ben ouais, c'est ça, c'est la CNIL, du coup, la Commission nationale information et liberté, qui a été consultée, hein, c'est obligatoire pour le gouvernement d'obtenir leur expertise. Eux, ils dénonçaient le fait que ce genre de technologie risquait, du coup, de compromettre la sécurité et le droit à la vie privée des gens. Et de ce que j'ai compris, là, en cherchant un peu sur le site de Vie Publique et sur le site de la CNIL, en épluchant un peu leur rapport, c'est qu'au final, pour valider ce passage devant la CNIL, le gouvernement s'est engagé à ce que ces mesures soient temporaires. Donc le temporaire pour le gouvernement, c'est pas juste les 15 jours.
Ouais,
c'est pas juste les 15 jours des JO, ça prendra effet au mois de juin 2024 et ça durera jusqu'à fin juin 2025. Et de mon côté, comme je constate qu'on vit en état d'urgence prolongé depuis maintenant plus de 5 ans, j'ai bien peur que ça rentre dans les mœurs et qu'une fois que c'est là, on oublie de... En général, quand on perd un peu de liberté, c'est très très long et très très dur de revenir en arrière.
Eh bien, pour terminer, simplement pour terminer là-dessus, juste pour prendre un petit peu de distance, un petit peu de hauteur, Claude Sarfati, qui est économiste et qui est notamment l'auteur en 2023 là, de L'État radicalisé, la France à l'ère de la mondialisation armée, précisait bien que, alors il mettait en avant déjà deux chiffres. En 2000, après la dissolution de l'URSS, les dépenses militaires mondiales étaient de 1000 milliards de dollars. Elles sont aujourd'hui de 2000 milliards de dollars. Donc une tendance qui pose cette question. Est-ce qu'il faut croire la grande campagne qui nous fait justement croire que nous vivons dans un monde en paix ? On nous fait la promesse que le marché nous apporterait paix, prospérité et démocratie. Et il y a aujourd'hui près de 50 guerres pour des ressources en cours. Il n'y a donc pas de corrélation entre les dépenses militaires et la sécurité réelle.
Qu'on se le dise.
Une petite info de dernière minute, Quentin.
Oui, avant la fin de cette émission et le programme de la journée, je viens d'apprendre que le recours qui avait été déposé par le collectif des Amis de la Bourge pour débouter l'autorisation préfectorale de reprise des travaux sur le site du centre religieux à Saint-Pierre-de-Colombier a été rejeté. Donc les militants, militantes, activistes et opposants de tout poil à ce projet de de centres religieux faramineux doivent attendre la décision du pénal qui interviendra dans 5 ou 6 mois. D'ici là, qu'est-ce qui se passera ? On ne sait pas encore trop, mais...
Vous allez en parler jeudi. Enfin, on va en parler jeudi dans l'Onde Curieuse.
Voilà, jeudi, on reçoit du coup un ou une, on ne sait pas encore, représentante des Amis de la Bourge, pour savoir un peu ce qui se profile à l'horizon.
Merci Quentin, mais c'est fini pour aujourd'hui. Merci Sylvain. Vous retrouvez à 15h le Telex, à 17h l'Onde Curieuse, à 18h Polémique et la Voix Off, aujourd'hui à Bas la Presse Bourgeoise, et à 21h Metal Zone. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Merci Sylvain, merci Quentin. À bientôt.
Au revoir.